Bonjour à tous et bienvenue dans Analyse F1, un nouveau podcast aujourd'hui en deux parties, en deux chroniques, puisque la première chronique sera consacrée au bruit des moteurs. On en a beaucoup entendu parler cette saison et pour moi c'est le bon moment pour en reparler et mettre les choses définitivement au clair. Et ensuite, j'évoquerai et j'analyserai les déclarations récentes de Niki Lauda envers McLaren et Ferrari. Mais commençons tout de suite par les critiques du bruit des moteurs qui se noient, comme vous avez pu le lire dans le titre de ce podcast. Pour moi, ces critiques se noient et commencent à vraiment couler. On l'a vu après le Grand Prix de Hongrie et plus généralement après tous les bons Grands Prix qu'on a pu voir cette saison. Étrangement, les critiques du bruit des moteurs se sont tues, tout simplement. On n'a pas eu à subir ces critiques de la part des médias, de la part de la Formule 1 elle-même. Bref, ça éteint vraiment les critiques, parce qu'à chaque fois, il faut bien se rendre compte que le point le plus important en F1, c'est la course. Et la course reprendra toujours le dessus sur des éléments un peu factices qui pourraient envenimer le sport. La course, c'est le plus important, et j'insisterai toujours là-dessus dans cette émission. Mais voilà, je ne vais pas finir la chronique là-dessus, il faut bien que je revienne sur les faits, c'est-à-dire sur le début du débat, on va dire, sur le bruit des moteurs, qui n'est plus ce qu'il était. Donc l'ampleur du débat, il faut revenir au début de saison, tout début de saison, au premier Grand Prix de la saison, en Australie, avec le promoteur du Grand Prix d'Australie qui a eu vent de mauvaises critiques, de mauvaises surprises de la part de spectateurs qui s'attendaient à un bruit pas aussi éloigné des V8 que ça. Et donc, le promoteur du Grand Prix d'Australie étant ami en tout cas avec Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, bon, les promoteurs qu'il affectionne bien, c'est-à-dire qu'il respecte bien, les règles établies en termes d'argent, hein, il faut le dire, hein, on va dire les choses simplement. Eh bien, il a suivi du coup ce mouvement du promoteur du Grand Prix d'Australie et d'autres promoteurs qui ont eu peur que ça éloigne les gens de la F1 un peu trop. Et du coup, il a suivi ce mouvement et a lui-même critiqué le bruit des moteurs. Et selon moi, c'est très mauvais. C'est très mauvais ce qu'a fait Ecclestone, comme souvent dans ses déclarations. Il est très bon en tant que grand argentier. Dans son boulot pur, il fait du bon boulot. Mais après, quand il s'étend dans les déclarations à propos du sport, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et bref, et je pense que c'est vraiment mauvais que la F1 s'enfonce elle-même comme ça en public. Parce que c'est une grande incompréhension. C'est le sport qui s'auto-critique de façon mauvaise. C'est bien qu'il y ait une autocritique, mais en public, comme ça, en disant la Formule 1, c'est plus ce que c'était, mais vous l'avez choisi, vous êtes les instances de la Formule 1, vous avez choisi ces règles, vous les avez acceptées, et maintenant, vous les critiquez. Il y a une grande incompréhension, du coup, c'est plus possible. Et du coup, ça attise le débat, évidemment, parce que du coup, plusieurs milliers de personnes vont réagir sur les réseaux sociaux, sur les divers sites spécialisés pour dire « Ah ben oui, c'est vrai, les moteurs, c'est plus ce que c'était, etc. » Et ça fait un effet boule de neige. Et selon moi, il y avait une déclaration de Niki Lauda, comme quoi il est bien dans le thème aujourd'hui des chroniques, qui disait qu'il aurait mieux fallu régler ça en interne. Et je suis d'accord, à mon avis, c'était la meilleure solution, c'est-à-dire régler les dissensions en interne et ensuite voir pour éventuellement aménager le règlement plus tard. Du coup voilà, ça donnait beaucoup de voix au le moteur 2014 est pas assez bruyant. Ensuite il y a eu des tentatives de la part de la F1 d'augmenter le bruit, des tentatives assez ridicules avec des amplificateurs au niveau du pot d'échappement, avec d'autres moyens également. Selon moi c'est très factice et ça montre bien que la F1 a très mal géré cette situation au niveau de la communication. C'est désastreux. C'est désastreux, là, comme je l'expliquais. Et ce n'est vraiment pas bon. En plus, il y a eu d'autres événements qui ont suivi au niveau de la F1, parce que Ferrari, qui est quand même l'écurie qui représente, on va dire, la F1 le plus, a mis en place un pseudo-sondage que vous avez peut-être connu sur les réseaux sociaux qui demandait si la F1 version 2014, si ça leur plaisait. Je crois que c'était plus axé sur le moteur, mais en gros, la question était posée de telle sorte qu'évidemment, les personnes qui veulent réagir le plus, c'est les personnes qui ne sont pas d'accord. Celles qui sont d'accord avec la F1 de maintenant vont pas réagir plus que ça. Ça, c'est d'ailleurs, c'est logique sur les réseaux sociaux, on s'en rend bien compte. C'est les personnes qui ne sont pas d'accord, qui veulent se plaindre de quelque chose, qui veulent critiquer quelque chose, qui vont en premier, en majorité, commenter. Bah là, c'était pareil. Du coup, Ferrari a eu le résultat qu'il voulait, l'a présenté aux instances de la F1 et a dit « Bon, ben voilà, les gens veulent que les choses changent. » C'est pas logique, fallait arrêter, c'était assez ridicule. Selon moi, il y a eu des grosses erreurs de communication, que ce soit de la part de la FIA ou de la part d'autres instances de la F1, des écuries également, parce que je ne sais pas d'où viennent les erreurs concrètement, mais il y a eu des articles, enfin des déclarations qui ont dit que soi-disant, Ecclestone n'était pas au courant que le bruit des moteurs allait être comme ça, que apparemment on lui avait promis autre chose il y a 2 ans. Mais depuis 2 ans, il s'en est passé des choses. Les moteurs ont été conçus, il y a eu des tests, Ferrari était les premiers d'ailleurs à faire tourner son moteur dans le vide. Et à mon avis, dès ce moment, on pouvait savoir à peu près quel bruit allait faire le moteur. Ça me paraît tellement logique, mais ça me paraît tellement illogique qu'il n'y ait pas eu de communication entre les différentes parties dans l'affaire, que voilà, ça a donné un fiasco, là, le fiasco de la première partie de saison au niveau de la communication de la F1. Et évidemment, ça a éloigné pas mal de personnes de la F1, autant celles qui ont été encouragées dans leur, on va dire, incompréhension du nouveau moteur, que d'autres qui sont éloignés, qui ne font pas partie de la F1, qui ne regardent pas la F1 et qui n'ont pas voulu la regarder parce qu'il y avait trop de d'affaires. Enfin, c'est très bizarre, comme je l'ai dit, que la F1 s'enfonce elle-même, c'est très mauvais. Mais selon moi, voilà, je ne vais pas non plus faire l'éloge du moteur V6, parce qu'en effet, on peut remarquer qu'il fait beaucoup moins de bruit que le moteur V8 et que le bruit, c'est quand même une partie du spectacle, on est d'accord. D'ailleurs, Fernando Alonso avait déclaré que les premiers souvenirs qu'il a de la Formule 1, c'était quand il était allé voir un Grand Prix et que il y avait du bruit, tout simplement. C'était les V10, je crois, ou même voir les V12 qu'il entendait. Enfin, c'était au moins des V10 qu'il entendait. Et du coup, il avait ce souvenir. Il a ce souvenir de quand il était petit. C'est le souvenir qui lui reste le plus. C'est le bruit des moteurs. Mais selon moi, maintenant, du coup, les jeunes n'auront peut-être pas le souvenir du bruit des moteurs, c'est vrai, mais auront le souvenir de la vitesse. Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on voit des monoplaces rouler à plus de 200, 300, à aborder des courbes rapides avec autant de vitesse. C'est quand même impressionnant, je pense. Et maintenant, ça va plus être axé sur la vitesse. Autre argument, je pense, qui peut être mis en œuvre pour, on va dire, ne pas défendre le moteur V6, enfin pour, on va dire, un peu nuancer mon propos, c'est que la question se pose pour les spectateurs dans les gradins. Je pense que c'est l'unique question, parce que cette année, il y a eu quelque chose qui a été mal fait de la part de la FIA, c'est que les règlements GP2 et F1 n'ont pas été alignés. Et ce n'est pas logique, déjà dans la logique de la FIA. La FIA veut un modèle plus écologique, on va dire, plus économique et surtout innovant. Parce que la F1, c'est innovant, c'est l'innovation. Depuis 1950, il y a eu l'innovation en Formule 1 par tranche de dizaines d'années, voire même par tranche de 5 ans, certaines époques. Donc c'est ça la F1. Ça, il faut le reconnaître. Mais, quand sur un Grand Prix, les gens vont voir la F1, mais évidemment, le matin, il y a la course de GP2 et généralement, les spectateurs assistent aussi à la course de GP2. Les GP2 ont un V8 cette année. Et oui, et là, je pense que vous voyez le problème. C'est que du coup, les V8 sont bien plus marquants que les V6. Et du coup, ça provoque une grande incompréhension de la part des spectateurs et je les comprends. Pourquoi les GP2 sont plus impressionnantes à écouter que les F1. Et du coup, dans l'esprit des gens, quand ils voient la course de F1, ils sont un peu déçus, c'est normal. Et Par conséquent, il me semble, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais j'avais lu ça, que l'année prochaine, le règlement de GP2 sera aligné sur celui de la F1 au niveau de la réglementation technique, au moins pour qu'il y ait le V6. Comme ça, il y aura plus de problèmes, et selon moi, c'est bien mieux. Mais encore une fois, une erreur de la part de la FIA à noter. Ensuite, on oublie certaines choses aussi quand on parle du bruit des moteurs. Et je vais y revenir, j'en ai parlé au tout début, c'est les bons Grands Prix. Alors, il y a eu le Grand Prix de Hongrie, il y a eu aussi un certain Grand Prix de Silverstone qui m'a bien marqué. Pourquoi il m'a marqué? Parce qu'on a pu entendre une grande ferveur dans les tribunes. C'est vraiment des passionnés de F1, de la course, j'y reviens, de la course. La course est superbe, les gens étaient debout, il y avait leur protégé Hamilton devant qui est passé premier, et il y a eu de la ferveur, une énorme ferveur. J'ai été très surpris d'entendre ça. Bon, vous allez me dire, c'est parce que c'est le V6 qu'on entend ça, hein. Il y aurait eu le V8, on l'aurait pas entendu avec le bruit des moteurs, mais bon, ça n'empêche pas, du coup, qu'il y ait de la ferveur même avec les V6. Les gens ne s'ennuient pas non plus. Quand la course est intéressante, les gens vont quand même faire preuve de ferveur, vont applaudir, vont crier, et c'est ça qui est beau aussi. Et il y avait du monde à Silverstone, il y avait du monde en Hongrie, il y avait du monde en Allemagne, même si ça a été plus compliqué en Allemagne, et que ça s'est joué au dernier jour. Mais c'est, disons qu'il ne faut pas enterrer la F1 parce qu'elle est passée d'un V8 à un V6. Par ailleurs, je vais parler un peu des médias qui m'ont un peu déçu en début de saison, notamment des médias que je suis et que je suis encore d'ailleurs parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils fournissent des informations intéressantes. Mais voilà, il y a certaines personnes qui s'appellent spécialistes parce qu'elles sont professionnelles, journalistes professionnels dans la F1. Qui ont plongé, et là je fais écho avec le titre hein, évidemment du podcast, qui ont plongé dans une réaction simpliste. C'est-à-dire que direct, ils ont plongé dans le « les moteurs c'est un scandale en F1, le sport n'est plus ce qu'il était, comment la F1 va réagir à ça, etc. etc. » Vous voyez bien, je pense, le type d'article. Eh bien, je pense que c'est pas bon de rentrer là-dessus. Ce n'est pas, à mon avis, le journalisme que j'attends, en tout cas. Mais c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps d'être le premier à vouloir donner un avis, à vouloir dire ce qu'il pense de quelque chose, même si ce n'est pas approprié. Parce que des fois, il faut attendre. Surtout cette année en Formule 1, on est la première année où il y a un gros changement. Donc, pour pas mal d'éléments, comme par exemple l'histoire de l'économie d'essence ou le temps autour des monoplaces, il faut attendre, il faut laisser le temps au temps. Quand il y a une innovation telle que celle-ci, il faut laisser autant aux ingénieurs, laisser autant aux ingénieurs du monde entier, aux mécanos, de trouver les solutions. Généralement, ils les trouvent en Formule 1, on le sait. Au fur et à mesure d'une saison, il peut y avoir beaucoup de changements. La saison prochaine, il y aura sûrement encore des changements et des améliorations apportées sur certains points de vue de la monoplace. Mais voilà, on est dans une époque où il faut donner un avis tout de suite. On ne peut pas attendre. Il faut être dans le buzz tout de suite pour être le premier à avoir donné un avis, pour pas être en retard, pour faire du clic, pour vendre. Selon moi, c'est très mauvais parce qu'il y a d'autres moyens de le faire. Il y a des moyens de le faire en conservant une qualité et il y en a beaucoup qui ont oublié ça. Et du coup, qui s'en rappellent maintenant que il y a eu des bons grands prix et que le bruit des moteurs, beaucoup de gens se rendent compte maintenant que c'est devenu un élément moins important que la course en tout cas. Et du coup, j'ai vu certains médias qui ont retourné leur veste, qui retournent leur veste parce qu'ils sentent le vent tourner et que ça pourrait pas tourner en leur faveur à l'avenir. Par conséquent, ils reviennent sur leur position très clairement. Et selon moi, voilà, c'est... Je déteste ça, parce que dans Analyse F1 en tout cas, c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais cette émission. C'est parce que j'ai envie d'apporter une réflexion plutôt. Je serai dans la réactivité au niveau de l'actualité, ça il n'y a pas de souci, mais je serai toujours au moins dans la réflexion. Tout ce que je vais dire, ça sera basé sur des faits, ça sera fondé. Et si je ne suis pas sûr de quelque chose, j'émettrai des hypothèses. On oublie très souvent d'utiliser ça, d'utiliser les hypothèses. C'est très important selon moi quand on veut faire une analyse des choses dans un sport, au lieu de vouloir tout de suite affirmer quelque chose au risque de se tromper, mais de toute façon, ces personnes-là s'en fichent parce qu'elles veulent juste faire du chiffre. Et voilà, là, ça ne sera pas le but d'analyse F1, très clairement. Et encore une fois, je défendrai la course. Je critiquerai souvent, je pense, la FIA. Je critiquerai aussi pas mal certaines personnalités qui peuvent déclarer des choses dont je ne suis pas d'accord. Et du coup, mais je resterai tout le temps dans cette optique de favoriser la course dans mes analyses. Parce que selon moi, c'est le plus important. C'est ce qu'ont besoin les pilotes, c'est ce qu'ont besoin les spectateurs. Au lieu d'un spectacle parfois factice, créé facticement, j'avais fait une émission vidéo sur le DRS où j'émettais les pour et les contre de ce système, où je parlais de ça. Donc voilà. Et sur ce, j'ai fait un peu long sur la critique du bruit des moteurs. Donc on va faire une courte pause musicale et on se retrouve pour parler après des déclarations récentes de Niki Lauda. A tout de suite dans Analyse F1. Vous écoutez bien Analyse F1 et vous venez d'entendre en tant que pause musicale une composition de Johann Sebastian Bach, Goldberg Variation BWV 988, Variation 3, Canon on the Unison. Et nous sommes repartis pour une deuxième chronique. Je vais essayer de faire vite hein, pour pas faire trop long parce que c'est vrai que la première chronique, c'est vrai que j'aurais peut-être pu aller plus vite et raccourcir certains facteurs, mais à chaque fois la F1. C'est ça qui est bien également, c'est que la F1, quand je parle d'un truc, ça amène sur un autre truc, évidemment. Il y a pas mal d'éléments liés. Allez, on est reparti et je vais parler des déclarations rugueuses de Lauda envers McLaren et Ferrari. Parce qu'il a déclaré, dans la presse espagnole, tout simplement, que les monoplaces McLaren et Ferrari, je cite, c'est de la merde. Voilà, la citation de Niki Lauda qui a toujours son franc-parler. Et on l'aime pour ça aussi, hein, ça c'est vrai. Mais ensuite, voilà, ça fait beaucoup parler dans la presse, ça fait sûrement beaucoup parler également au sein de McLaren et Ferrari, qui n'étaient, à mon avis, pas très contentes de ces déclarations, mais c'est bien normal. Et par conséquent, ensuite, il a dû s'excuser publiquement. Mais bon, voilà, on n'est pas dupes, ces excuses, c'est simplement de la communication, hein, simplement de la com. Mais il n'a pas renié le fond, hein, c'est vraiment la forme qu'il a renié, c'est-à-dire le fait d'avoir dit le mot « merde ». Il aurait dit un autre mot, genre « Ah, c'est monoplace, c'est pas très bien. » Ce serait peut-être passé, même si ça aurait pas plu à McLaren et Ferrari non plus. Mais voilà, c'est vraiment le mot « merde », quoi, un peu vulgaire, dont il s'est excusé. Mais sinon, il n'a pas renié le fond, et c'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Avant d'analyser un peu plus ces déclarations, j'ai envie de revenir sur la légitimité de Niki Lauda, parce qu'elle est souvent remise en cause, où il y a des sous-entendus par rapport au fait qu'il est chez Mercedes, donc on va remettre les choses à plat. Tout d'abord sur son manque d'objectivité supposé. Alors, son rôle chez Mercedes, il est président non exécutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas salarié de Mercedes, qu'il a son mot à dire, mais de manière, on va dire, plus officieuse qu'officielle. Bref, il n'est pas lié par Mercedes. Ses employeurs, ce n'est pas Mercedes. C'est une figure, voilà. Niki Lauda, c'est une figure. Et évidemment, Mercedes a choisi la bonne personne, un champion du monde. Il y a eu le film Rush, j'y reviendrai. Et voilà, c'est une figure de Mercedes, une figure représentative. Et surtout, Niki Lauda, il s'entend bien avec tout le paddock. Il une entente cordiale, un respect mutuel avec les autres écuries. On le voit souvent aller dans un autre mot, enfin, dans un autre stand, discuter avec d'autres teams principales, avec d'autres personnes du paddock qui font partie d'autres écuries. Il n'y a pas de souci, il se balade comme il veut. Il n'est pas non plus lié à Mercedes plus que ça, en tout cas pas dans ses déclarations. Et il est prêt même à critiquer Mercedes. Oui, le Grand Prix de Hongrie, souvenez-vous, c'était un des premiers à avoir réagi aux consignes de course et à ce qu'a fait Hamilton. Et c'était un des premiers à avoir dit être d'accord avec Hamilton et donc à se mettre en opposition avec Mercedes. Là, ce n'est qu'il y a quelques jours, voire hier ou avant-hier, que Mercedes a déclaré comprendre le choix d'Hamilton publiquement, mais sinon Lauda est un des premiers à le faire publiquement. Ensuite, d'autre part, il y en a beaucoup, beaucoup de gens disent qu'il parle trop, Niki Lauda, qu'on l'entend beaucoup trop, qu'on l'entend trop. Et c'est vrai que cette année, on l'entend beaucoup dans la presse. Mais pourquoi? Il y a trois raisons simples. Tout d'abord, une raison qui date de l'année dernière, on va dire. C'est le film Rush. Évidemment, ça a mis en avant son personnage, ça l'a mis en avant d'une bonne façon. Ensuite, il y a le fait que Mercedes soit numéro 1 au championnat du monde des constructeurs, avec un duel entre Rosberg et Hamilton. Donc forcément, il est demandé de partout. Il est demandé de partout, c'est normal. Quand il y a une écurie numéro 1, l'écurie numéro 1 est forcément celle qui est la plus demandée par les médias. Et ensuite, Niki Lauda, c'est un champion du monde de Formule 1. C'est aussi simple que ça. Les champions du monde sont très demandés par la presse spécialisée. Et donc, ces trois raisons, ça fait que Niki Lauda est un nom qui fait vendre, tout simplement. Il faut bien comprendre ça, c'est un nom qui fait vendre. Et c'est pour cela qu'on l'entend beaucoup dans la presse. C'est pas lui qui a choisi de beaucoup parler. Hein. On lui demande de venir, il vient et puis il donne son avis, voilà, tout simplement. Après, ça arrange Mercedes, évidemment. Ça, c'est sûr. Et voilà. Mercedes en profite, lui il en profite parce qu'il peut donner son avis et comment dire, et les médias en profitent parce que ça fait vendre, tout simplement. Mais dans ses déclarations en général, certes il parle beaucoup, mais souvent, même très souvent, la majorité du temps, je le trouve vraiment très intelligent dans ses déclarations. Vraiment, il y a très peu de choses à jeter, des analyses vraiment bonnes. Franchement, si vous avez l'occasion de lire ces interviews et tout, je vous les conseille. Au contraire. Je vous les conseille beaucoup. Ensuite, voilà, maintenant que j'ai parlé de la légitimité de Lauda et qu'on a un peu rétabli les choses, je vais pouvoir parler de ses déclarations. Parce que s'il n'était pas légitime à discuter, ça ne servira à rien d'analyser ses déclarations, vous vous rendez bien compte. Donc parlons du soi-disant irrespect de ses déclarations. Alors certes, le mot merde est vulgaire, ça, bon, c'est avéré, bon, je ne les sens pas de sincère pour dire ça. Mais selon moi, c'est pas de l'irrespect, bien au contraire. Je vais peut-être en choquer beaucoup en disant ça. Peut-être vous êtes peut-être fan de Ferrari ou de McLaren, c'est possible. Vous êtes beaucoup. Mais voilà, pour moi, c'est pas de l'irrespect de dire que la McLaren et la Ferrari sont de la merde. Pourquoi? Parce que Niki Lauda, tout simplement, pour revenir au personnage, il connaît très bien Ferrari et McLaren lui-même. Il a été titré deux fois, il a été titré avec eux. Donc il connaît l'exigence de ces top teams. Il la connaît. Il a été dedans. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et souvenez-vous, bon, si vous avez vu le film Rush, certes, mais le film Rush, il retranscrit bien à un moment, au début qu'il était chez Ferrari, c'est-à-dire au niveau de la monoplace. Ça fait vraiment écho, hein. Ça fait vraiment écho pour ceux qui ont vu le film, parce qu'il le dit aussi. Il dit que c'est. Il dit en gros aussi que c'est de la merde, quoi, la monoplace Ferrari de l'époque, avant d'avoir les premières courses, et qu'il faut faire pas mal de développement dessus. Et du coup, on lui dit, attends, attends, Niki, tu peux pas dire ça, c'est Ferrari, faut respecter. Pareil, le même discours. Sauf que oui, respecter. Selon moi, respecter Ferrari et McLaren. c'est respecter avant tout son histoire, respecter la marque que ça représente. Ces deux écuries sont des top teams historiques. Et là, je pèse vraiment tous mes mots. Top team historique. C'est les plus grandes écuries de Formule 1 de l'histoire. Donc pour respecter un peu Ferrari McLaren, il faudrait faire des monoplaces à la hauteur du standing de Ferrari McLaren. Je pense que les tifosi ne sont pas très contents que Ferrari n'ait aucun titre depuis des années. Aucun titre pilote depuis Kimi Raikkonen. Ça fait long 7 ans. Ça fait long. Se faire battre par Red Bull toutes ces années, avoir une monoplace cette année qui peut à peine faire des podiums. McLaren, depuis l'année dernière, aucun podium l'année dernière, un podium cette année en tout début de saison et ensuite plus rien. Est-ce que c'est du respect pour l'histoire de ces monoplaces? Non, ça ne l'est pas. Et selon moi, respecter l'histoire de la marque, c'est vraiment pouvoir la critiquer. La critiquer de manière constructive. Et ce n'est pas être supporter de Ferrari ou de McLaren qui veut, enfin, être supporter de Ferrari ou de McLaren, ou des deux même, hein, ne signifie pas dire oui à tout. C'est comme en foot. Voilà, je vais faire une comparaison avec le football. Un supporter de club de football. Imaginons un club de football avec une politique sportive de recrutement, tout ce que vous voulez, désastreuse. Le supporter, son rôle, c'est pas de dire oui à tout. Au contraire, pour que le club s'améliore, c'est au contraire d'avoir un esprit critique. Être supporter ne signifie pas qu'on a enlevé l'esprit critique. Au contraire, il faut toujours conserver cet esprit, on va dire, libre et ne pas être cantonné à dire oui à tout. Et c'est pareil en Formule 1, il ne faut pas dire oui à tout et il faut savoir remettre les choses sur la table et dire quand ça va pas. Et là, ça va vraiment pas pour Ferrari et McLaren. Il y a des choses à changer au niveau des usines respectives. Il y a vraiment pas mal de choses à changer, je pense, pour faire des monoplaces efficaces, pour retrouver le standing de ces marques. C'est vraiment les critiquer pour mieux les relancer, je pense. Il faut les critiquer pour mieux les relancer. Pour que ça fasse tilt dans leur tête et qu'elles se disent bon bah ouais c'est vrai hein, on est Ferrari, on est McLaren, on n'est pas à notre place tout simplement et on doit la retrouver, c'est le but. On doit pas accepter de rester à cette place. Si on nous dit que notre monoplace c'est de la merde, eh bien au niveau de la communication on n'accepte pas, mais on doit quand même reconnaître que c'est vrai et faire ce qu'il faut pour changer les choses. Mais ensuite voilà, là il y a aussi une difficulté au niveau des top teams. Quand on s'appelle Ferrari, McLaren et qu'on est un top team historique et qu'on connaît des années un peu sombres, c'est très compliqué. C'est plus compliqué pour ces teams que pour d'autres teams. Donc pour moi, être un top team historique, c'est une difficulté pour ces top teams d'en être justement. Et j'y reviendrai dans un prochain podcast justement. Avant de vous quitter, je souhaitais remercier le staff de Podchose qui m'a bien aidé à mettre en place le tout premier podcast pilote et vous remercier vous également d'avoir partagé ce podcast. D'ailleurs, aussi merci à Podchose pour avoir partagé ce podcast, le premier. À vous de l'avoir écouté, de m'avoir donné vos avis, vraiment, c'est vraiment encourageant. Ça me conforte vraiment dans mon choix de porter Analyse F1 en format audio. Et ça m'encourage vraiment à continuer, vraiment à m'améliorer. Même si, je pense là, même après, j'ai même pas besoin de me réécouter, je sais même que au sein de ce podcast, il y a des choses à améliorer au niveau de l'enchaînement, des choses, des idées. Mais ça viendra au fil du temps, ne vous en faites pas. J'ai besoin de reprendre le rythme, c'est vrai. Et je pense que je vais le prendre parce que j'ai plus de facilité à faire des podcasts en audio que des vidéos au niveau de la quantité. Donc je vais tout faire pour que ce soit mieux, de mieux en mieux au fil du temps, avec sûrement plus tard dans quelques semaines la première grosse émission. J'ai déjà pas mal d'idées, hein, ne vous en faites pas. Il y a toujours des thèmes à traiter très intéressants en Formule 1. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Alors ensemble, en attendant et en écoutant les podcasts, vivons notre passion. À bientôt.